France Inter, il est 19h22, on retrouve tout de suite Alain Bédoué.
Le téléphone sonne.
Téléphone sonne, bonsoir.
01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir, c'est un trouble complexe qui touche une part non négligeable d'enfants et qui demeure une préoccupation majeure de beaucoup de parents et d'enseignants, même si, et nous en parlerons certainement ce soir, on a peut-être trop souvent tendance à tout placer sous le terme générique de dyslexie, y compris des troubles d'apprentissage, de lecture ou d'écriture qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir avec la dyslexie telle qu'elle est le plus souvent définie, c'est-à-dire une difficulté d'identification des mots écrits ou encore une difficulté durable d'apprentissage de la lecture et d'acquisition de ces automatismes, le tout chez les enfants, précisons-le tout de suite, intelligents, normalement scolarisés, indemnes de troubles sensoriels et de troubles psychologiques préexistants. On peut ajouter que ni les parents ni les enseignants ne sont responsables de ce trouble spécifique d'apprentissage, mais qu'ils ne doivent pas pour autant l'ignorer, et que la dyslexie toucherait, selon certains, près d'un enfant sur 20, il suffit de se représenter 2 enfants par classe, ce n'est quand même pas rien, et cela dans tous les milieux sociaux. Question donc ce soir au téléphone sonne sur la dyslexie d'une façon générale, ce qu'on sait de ses causes et les moyens psychologiques, pédagogiques, médicaux éventuellement utilisés pour traiter ces troubles ou du moins les prendre en charge. En direct avec nous, et je les en remercie, le docteur Catherine Billard, neuropédiatre, responsable du centre référent sur les troubles des apprentissages à l'hôpital Bicêtre, Monique Touzin, orthophoniste dans le même centre référent, et enfin Odile Augier-Gaulier, mère de 6 enfants, dont un fils dyslexique, formatrice pour la prise en charge des enfants dyslexiques et qui publie 10 sur 10 le parcours de mon enfant dyslexique chez Jacques André éditeur. Le 10 sur 10 devant évidemment se lire, là on est à la radio, en fait il s'agit des 3 lettres D, Y, S, une barre et ensuite le nombre 10.
Le téléphone sonne.
Chantal, bonsoir, vous êtes à Paris. On va commencer avec vous par ce que vous vouliez parler plutôt, et Dieu sait que c'est important, des définitions, si l'on peut dire.
Il y a quelques années, vous aviez fait une émission sur la dyslexie. La conclusion était que contre la dyslexie, on manquait de moyens pour la déceler et on manquait de moyens pour la corriger. Mais qu'est-ce que la dyslexie ?
Merci. Je n'ose pas dire merci pour cette question, merci de l'avoir posée. Docteur Catherine Billard, ça revient. Qu'est-ce voilà, précisément que ce trouble, que cette dyslexie, que peut-on répondre ?
Ah Chantal, effectivement, il faut être clair dans ce qu'on entend par dyslexie. Ce qu'on entend par dyslexie, c'est un trouble d'identification des mots, donc de développement de la lecture, ça vous l'avez dit, avec un certain seuil de sévérité et avec un caractère durable et persistant, et comme vous l'avez dit, sans que rien ne puisse l'expliquer, ni une déficience intellectuelle, ni des troubles psychiatriques, ni des troubles sensoriels, ni une insuffisance pédagogique. Donc c'est exactement votre définition, c'est clair, la définition elle est aujourd'hui clinique.
Est-ce qu'on n'a pas tendance, parfois, je dis bien parfois, à un peu mettre beaucoup de choses dans le terme de dyslexie ? Je vous lis le courriel, ça fait 10 lignes, mais c'est très intéressant, d'un jeune professeur de français en lycée qui s'appelle Mathieu, et il nous écrit ceci. « J'observe depuis quelques années la multiplication des élèves étiquetés dyslexiques avec diagnostic de l'orthophoniste et, le cas échéant, octroi d'un temps supplémentaire aux examens. Les élèves et leurs familles semblent souvent résignés devant les difficultés rencontrées à l'écrit, d'autant plus qu'ils trouvent avec ce diagnostic qu'on leur a donné toutes les raisons de demeurer fatalistes. Mon fils est dyslexique. Or, et c'est ma question, j'ai surtout l'impression, moi, prof de français, à lire les textes de ces élèves, que leurs difficultés sont souvent beaucoup plus liées à des lacunes dans l'apprentissage du vocabulaire, au manque d'analyse syntaxique qui engendre des fautes d'ordre avant tout grammatical liées à l'analyse logique de la phrase. N'y a-t-il pas un emploi abusif du terme de dyslexie qui permettrait presque de se dédouaner de tout effort et de dissimuler aussi le déficit d'enseignement de la grammaire. Alors encore une fois, il met peut-être un peu le pied dans le plat, mais qu'est-ce qu'on peut dire?
Il met tout à fait le pied dans le plat, on peut dire deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, la dyslexie ne résume pas toutes les difficultés d'apprentissage de la lecture. C'est absolument clair qu'il y a d'autres difficultés plus complexes. En revanche, ce qui est clair aussi, c'est que connaissant bien les modèles de la dyslexie, on sait comment aider les autres enfants en difficulté de lecture. Le deuxième point de ce mail que je voudrais reprendre, c'est que c'est dans l'autre sens. C'est que bien souvent, effectivement, la réaction, c'est « mais enfin, c'est des banales fautes d'orthographe ». Eh bien, c'est pour les enfants, c'est une souffrance terrible qu'on leur ramène toujours leurs difficultés, au lieu finalement de valoriser les côtés positifs qu'ils pourraient avoir.
Monique Touzin, orthophoniste, et ensuite Odile Logier-Gaulier, qui voulait aussi la parole. Madame Touzin.
Alors, dans l'évolution aussi des dyslexiques, on leur apprend à lire. La conséquence après, c'est la dysorthographie. Donc, souvent, on a l'impression qu'ils lisent, mais il faut regarder à quelle vitesse ils lisent quand même. Ils ont un handicap sur la lecture, le temps de lecture, qui les pénalise dans les activités scolaires. Et c'est vrai qu'ensuite, pour gérer tout ce qu'il y a à gérer dans l'orthographe, bah, des fois, c'est vrai que la grammaire n'est pas appliquée. Ce dont il faut s'assurer, c'est est-ce qu'ils connaissent les règles, les dyslexiques généralement connaissent les règles. Quand on leur demande de réciter les règles, ils les connaissent. Mais ils ont trop de choses à gérer. Ça veut dire que les difficultés persistent dans d'autres domaines, notamment sur le plan phonétique, sur le plan de l'usage. Et du coup, la grammaire, comme vous l'avez dit, c'est ça qui demande une réflexion. Et c'est plus possible quand on a déjà traité toutes les autres dimensions.
Odile Logier-Grollet.
Oui, je voudrais aussi rebondir sur le fait que, justement, ces enfants qui ont des difficultés qui persistent sont aussi la preuve qu'ils sont intelligents normalement comme les autres et qu'ils ont réussi, malgré tout, à traverser toute la tempête de leur première scolarité en primaire et qu'ils arrivent à compenser. Et c'est lorsque l'apprentissage pédagogique devient de plus en plus difficile qu'à un moment donné, ils n'y arrivent plus, ils lâchent. Et là, les difficultés, entre autres, de la grammaire qui persistent, se révèlent et font barrage pendant les études.
Vous le racontez très bien dans votre livre, tout le monde ne l'a pas lu. Comment, pour votre part, avez-vous en quelque sorte découvert les difficultés de Paul, un de vos enfants, votre fils dyslexique? Et comment est-ce qu'au début, vous avez pu en quelque sorte, la formule vaut ce qu'elle vaut, mais enfin poser, puisqu'on parlait de dyslexie, poser le diagnostic, dire voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit, et surmonter ensuite l'obstacle?
Je pense qu'avec le recul, il y avait des signes prédictifs que je ne savais pas. Cet état un peu dépressif, cette lenteur, cette fatigue à l'école, ce désintérêt complet pour tout ce qui est lecture, histoire, écriture bien sûr. C'est pas pendant l'année de CP en général qu'on se pose des questions sur un dépistage de la dyslexie. On se dit simplement cet enfant est lent, il n'y arrive pas. On nous dit toujours que c'est en CE2 vraiment qu'on peut dire si l'enfant a vraiment appris à lire. Et finalement, il y a un retard, les parents s'inquiètent. Et les instituteurs ne s'affolent pas puisqu'ils ont de toute façon le premier cycle pour apprendre à lire à l'enfant. Et c'est au cours, bien sûr, d'un bilan pluridisciplinaire qui nous a permis de détecter la dyslexie.
À noter au passage, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de courriels d'enseignantes CP, CE1, CE2, des enseignants qui disent « attention aux parents ». Il y a différents degrés de maturation pour l'apprentissage de la lecture. Un enfant peut lire 2 ans avant son petit copain. C'est pas pour autant, enfin encore une fois, c'est schématique, mais beaucoup d'enseignants nous disent « s'il vous plaît, ne vous braquez pas dès la première année sur la lecture ». Un mot là-dessus peut-être, docteur Billard, avant le prochain appel?
Oui, parce que je pense que ce qui est important, c'est effectivement de ne pas se braquer sur une étiquette avant qu'on puisse la mettre. En revanche, ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'il ne faut pas laisser un enfant cours préparatoire buter sur le déchiffrement. Et ça, c'est peut-être on aura l'occasion d'en parler. Il y a quand même la possibilité d'optimiser un plan en 3 étapes qui permettrait de diminuer considérablement les troubles de la lecture de façon générale et les conséquences de la dyslexie en particulier. Donc étiquette, non. Faire quelque chose pour eux, oui.
Mireille, bonsoir, vous êtes à Francheville, dans le Rhône.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais prendre ma question. Je suis orthophoniste et je reçois chaque jour des enfants qui souffrent d'une pathologie du langage écrit. Or, comme vous l'avez dit auparavant, seuls quelques-uns peuvent être considérés comme atteints de dyslexie. En tant qu'orthophoniste, je suis confrontée chaque jour à la méconnaissance du trouble. Et notamment, certains enfants arrivent dans nos bureaux avec un diagnostic de dyslexie posé à tort par un instituteur ou un médecin scolaire avant même un bilan pluridisciplinaire. L'inverse existe aussi, puisqu'on entend des enseignants, des professionnels de l'enfance aussi, dire d'enfants dyslexiques qui sont simplement feignants. Donc voilà ma question. Pourquoi ces acteurs de l'enfance ne sont-ils pas encore tous formés? Et comment se fait-il que dans certains USM, dans beaucoup de facultés de médecine, les pathologies, les différentes pathologies du langage écrit ne sont pas encore au programme, sachant que je ne souhaite pas stigmatiser les enseignants, hein, mais je parle bien de leur formation.
On est bien d'accord, docteur Catherine Billard.
Je crois que votre question est tout à fait intéressante et votre remarque est malheureusement très vraie, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de formation qui... sur tous les niveaux. Il y a un défaut de formation des enseignants sur ce que c'est que les connaissances actuelles sur l'apprentissage anormal de la lecture et il y a un défaut de formation pour les médecins qui vont pourtant être prescripteurs de rééducation orthophonique. Maintenant, je crois qu'il faut remettre les choses quand même dans leur contexte. Il y a une vingtaine ou trentaine d'années, on s'occupait peu ou pas des enfants dyslexiques. Donc, il y a tout un retard à rattraper et qui est en train, malgré tout, d'évoluer. Mais vous avez complètement raison aujourd'hui.
Courriel de Geneviève dans le Pas-de-Calais. En sait-on davantage maintenant sur les origines même de la dyslexie? Les uns parlent d'une situation particulière de l'enfant, de sa famille, de l'environnement scolaire et affectif. D'autres, d'après ce que j'ai lu, s'attachent plutôt à des facteurs dits pathologiques, nerveux, voire génétiques. Alors que sait-on là-dessus avec certitude? Merci d'avance, ajoute Geneviève dans le Pas-de-Calais. Et merci Geneviève de poser cette question partagée par beaucoup de parents et d'auditeurs et d'auditrices ce soir. Docteur Billard.
Alors si on prend la dyslexie, et non pas les troubles du langage écrit. Si on prend la dyslexie, on connaît ses bases cérébrales. Il y a un dysfonctionnement d'une zone du cerveau qui est effectivement avec derrière des facteurs génétiques. Maintenant, c'est évident que ça ne résume pas tous les troubles de la lecture. Et d'autre part, l'enfant, c'est... D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a entre celui qui lit bien et celui qui va être sévèrement dyslexique, il y a tout un continuum. Et l'enfant, c'est un ensemble. C'est un cerveau, mais c'est aussi effectivement une vie psychique, un environnement familial, etc. Mais sur le plan des bases cérébrales de la dyslexie, arrêtons de les discuter, elles sont indiscutables.
Autre commentaire là-dessus, peut-être Odile Ogier-Gaulier.
Oui, je voudrais ajouter qu'en fait, on naît à la naissance dyslexique, on meurt dyslexique, ce n'est pas une maladie, ça passe pas comme la varicelle. Et considérons-la justement comme un handicap.
Claire, vous êtes à Laval, je crois, dans la Mayenne. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi, les difficultés en fait que l'on rencontre très très fréquemment, ce sont les mises en place des PAI, à savoir les projets d'accueil individualisés, et les enseignants malheureusement qui sont peu informés et surtout pas formés du tout aux troubles 10, ont du mal finalement à se rendre compte à quel point il est important de mettre en place des aménagements spécifiques de façon à mettre à égalité les autres enfants d'une même classe. Et on a vraiment du mal, si vous voulez, à faire entendre notre voix par rapport au monde enseignant.
Alors, nous allons vous répondre. Je voulais dire que j'ai aussi beaucoup de courriels là-dessus qui, d'ailleurs, au-delà des enseignants eux-mêmes, les individus, comme on le disait, s'interrogent sur leur formation, donc sur la prise en charge, au fond, par l'éducation nationale. Si vous le permettez, avant qu'on vous réponde, je voudrais citer aussi Juliette en Côte d'Or. La dyslexie de son fils a seulement été signalée en classe de 5e. Et elle ajoute en CE2, son institutrice le privait de récréation pour ce retard en écriture. Et puis j'ai aussi Sandra à Bordeaux qui explique que c'est nous, parents, qui chaque année devons arriver avec toute notre documentation pour informer les enseignants. Et croyez-moi, pour beaucoup, c'est une découverte tant au plan du trouble que des lois qui existent. Et quand enfin nous réussissons à mettre en place un PAI dont vous parliez, madame, alors elle dit que c'est un plan d'aménagement individualisé, vous parliez d'accueil. Pourquoi faut-il, ajouter de Sandra, chaque année, refaire toutes les démarches pour redémarrer ce plan, quand on sait le temps qu'il faut, souvent un trimestre, quel temps perdu pour nos enfants. La prise en charge par l'éducation nationale, docteur Billard, alors, est-ce qu'effectivement il y a, disons, des progrès encore à faire ?
Alors oui, il y a incontestablement des progrès encore à faire et je crois que les enseignants de terrain sont les premiers à le dire parce qu'ils en souffrent de cette situation. C'est vrai que le premier point, la première étape, c'est l'école. C'est l'école qui repère, c'est l'école qui peut agir dès les difficultés de déchiffrement en CP avant qu'on ait la durabilité du trouble qui demandera plusieurs années. Et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment, c'est pas une question de professionnel, c'est une question de pratique, il n'y a pas suffisamment de mise en place de projets qui, dans les autres pays, existent, de prise en charge pédagogique suffisamment ciblée, intense et précise et évaluée. Donc ce premier temps est très important. Le deuxième temps aussi, c'est que pour un enfant dyslexique qui va rester dyslexique, comme vous l'avez tous dit, il va falloir qu'on lui permette d'avoir tous ses talents, par exemple en mathématiques. Donc si on ne tient pas compte de sa dyslexie, si on ne fait pas les adaptations nécessaires, il va zapper d'autres apprentissages où il peut être talentueux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est vrai que c'est un parcours du combattant pour les parents.
Madame Girolier,
je voudrais rajouter par rapport à mon expérience personnelle. Moi, j'ai vécu exactement ce que l'auditrice raconte. Il a fallu que chaque année, je refasse le point et le bilan de toutes les difficultés de mon enfant, que j'apporte des preuves de ces difficultés, que je rencontre aussi les professeurs un par un pour expliquer et dire, voilà, est-ce qu'on pourrait pas faire ça, apporter les preuves que mon travail personnel d'accompagnant en tant que parent, ça marchait et qu'il fallait peut-être aussi le continuer en classe. Et malheureusement, s'il existait une sorte de passeport où tout est écrit, un espèce de carnet scolaire avec les difficultés de l'enfant, qui bien sûr peut-être changeront puisque l'enfant pris en charge normalement donc a quand même des difficultés qui s'amenuisent, ce serait déjà une difficulté, en tout cas de moins pour les parents chaque année.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de choses sont écrites et tout n'est pas lu. Et je voudrais en profiter pour citer sur le site arta.fr, et ce n'est pas du tout une question de publicité, mais il y a un CD-ROM que nous avons fait un certain nombre de week-ends de sensibilisation qui comporte à peu près tout ce qu'on peut faire, en tout cas en primaire, pour un enfant dyslexique. Il est téléchargeable gratuitement. Il faut largement le diffuser pour aider ses enseignants à connaître.
Un site dont les coordonnées sont d'ores et déjà sur celui du téléphone sonne à France Inter. Vous le trouverez à la page et de la date de l'émission de ce soir. Monique Touzin, orthophoniste.
On peut aussi insister sur le fait que depuis l'existence de ces projets pédagogiques pour adaptation de la pédagogie pour les enfants dyslexiques en classe, ça crée quand même des réunions de professionnels autour de l'enfant. Et c'est quand même là aussi, sur le terrain, une formation qui est faite. Alors, ce n'est pas la formation en IUFM, puisque celle-là existe peu. Mais en tout cas, il y a une demande des enseignants d'être informés de ça. Et le fait que, généralement, les orthophonistes sont aux équipes éducatives, ça permet aussi de diffuser une certaine information. Et là, les orthophonistes, elles restent plusieurs années auprès de l'enfant, d'avoir une continuité aussi dans les soins.
Madame Gégrelier,
En tant que représentante des parents, je préciserai quand même que la plupart des projets donc d'intégration, les projets d'accueil en classe, se font à la rentrée scolaire, qu'il y a de plus en plus de projets, parce que mon fils en 6e était le seul à l'avoir sur le collège qui a 350 élèves. En 5e, ils étaient 15. En 4e, ils étaient 22. Finalement, les projets augmentent. Les professeurs, eux, n'augmentent pas. Les professionnels et rééducatrices sont de plus en plus prises par ces projets. Et finalement, souvent, les parents sont seuls devant l'équipe enseignante pour établir le projet.
Alors, beaucoup de courriels aussi, justement, sur le fait que beaucoup de parents sont désemparés. Chloé à Meudon. Mais que doivent donc faire le père et la mère? Quelle est l'attitude à adopter? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? Car cette situation est sans doute très angoissante pour l'enfant en situation d'échec, mais croyez-moi, elle est aussi stressante et anxiogène pour nous parents. Et puis je voudrais citer également Marine à Rambouillet, même si le diagnostic de la dyslexie est toujours délicat à poser, vous l'avez dit tout à l'heure, pouvez-vous quand même nous parler des signaux d'alerte? Je n'ose pas évoquer les symptômes, car il me semble qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Et je me méfie également de cette tendance à la médicalisation ou surmédicalisation ou psychologisation de la moindre difficulté scolaire, si vous me permettez ce néologisme, d'autant que toutes les enseignantes de petite classe savent que la maturation varie d'un enfant à l'autre pour la lecture. Autrement dit, on a des parents qui sont perdus, qui d'une part demandent en quelque sorte « y a-t-il des signaux d'alerte ou d'alarme ?» et d'autre part ne savent plus du tout à quel sein se vouer psychologue scolaire, orthophoniste, etc. Qu'est-ce que calmement, avec un peu de recul, et en tenant compte de ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas non plus négliger, même dès le CP, des difficultés si elles se révèlent. Qu'est-ce qu'on peut répondre, docteur Billard ?
Alors, si on s'en tient à la dyslexie au sens strict du terme, c'est évident qu'on ne pourra pas l'affirmer en CP parce qu'on n'aura pas le recul, mais que par contre, on pourra la sentir. Monique pourra peut-être leur dire un petit mot tout à l'heure, mais c'est à la fois les difficultés dans le déchiffrement qui sont quasi constantes dans la dyslexie, et puis plus tard, c'est dans la fluidité de lecture, l'automatisation de lecture, et puis le corollaire au niveau de l'orthographe. Donc ça, il faut le reconnaître. À partir du moment où vous êtes parent et vous avez... Souvent, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est la maman qui a eu d'autres enfants et qui dit « mais c'est pas comme les autres ». À partir de ça, il y a tout ce qu'il faut pour permettre de dire que cet enfant a effectivement des difficultés, enfin un niveau de lecture qui est insuffisant pour sa classe, et pour dire que ça ne s'explique pas par d'autres points. Ça n'est pas forcément médicalisé. Je crois qu'il faut essayer de sortir des malentendus. D'abord, il faut essayer d'éviter de séparer la vie psychique de l'orthophonie, le médical de l'éducation nationale. Partons du départ de la dyslexie. C'est le plan d'action des années 2000. C'était un plan de 4 ministères. Éducation nationale, santé, recherche et handicap. C'est exactement tout ça. Et pour prendre en charge les troubles des apprentissages et la dyslexie, il faut tout ça.
Monique Touzin, orthophoniste.
Alors, sur les signes, quelques mots sur les signes. Alors, c'est vrai que les enfants peuvent apprendre à des rythmes différents. Ce qui fait la différence, justement, chez les enfants dyslexiques, d'abord, ce sont des enfants qui ont envie d'apprendre à lire. Donc, ils ont envie d'apprendre à lire et ils butent sur le béaba de la lecture qui fait qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et on voit les confusions de sons, des inversions visuelles, ils ont du mal à déchiffrer. Et du coup, ils n'arrivent pas à avancer dans la lecture au même rythme que les autres. Et ce qui est quand même important pour différencier les troubles globaux des apprentissages, c'est que ceux-là, ils sont bons en maths. Ils sont performants dans d'autres domaines scolaires. Il leur manque que la lecture, en fait. Et cette difficulté à arriver à déchiffrer au même rythme que les autres va les pénaliser après, parce qu'ils ne peuvent pas lire les problèmes de maths, ils ne peuvent pas... Et généralement, c'est à ça, quand même, qu'on les voit assez rapidement en difficulté.
Vous vouliez ajouter un mot, Madame Ogier-Gaulier ?
Oui, je pense, pour répondre à la question, qu'est-ce que les parents peuvent faire ? Que la dyslexie soit détectée ou pas, à partir du moment où l'enfant a du mal à apprendre à lire et à écrire, c'est dommage de stopper, de décourager son envie de le faire. Donc moi, si j'aurais un conseil à donner aux parents, c'est de continuer vraiment de leur lire des histoires, d'enrichir leur imaginaire, de leur faciliter la tâche, parce que quand ils sortent de l'école, ils sont déjà extrêmement fatigués, parce qu'ils ont dû, faire appel à toute leur concentration et attention. Ils ont plus de difficultés que les autres, ils sont plus fatigués que les autres.
Sylvie, bonsoir à l'ISTRAC en Gironde. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Vous avez répondu à la principale question que j'avais, c'est pourquoi attendre 2 ans de retard d'apprentissage de la lecture pour poser ce diagnostic, puisque ça ouvre énormément de souffrances au niveau familial. Tant que le diagnostic n'est pas posé, et l'enfant est déjà en perte de vitesse à l'école, il se retrouve même, on va dire, handicapé de l'école. Et c'est une chose que je vis au quotidien, étant donné que je suis présidente d'une antenne APDIS en France.
Oui.
Notamment en Aquitaine, et Sandra l'a aussi très bien exprimé, ce parcours de combattant que doivent mener les parents pour amener effectivement tous les éléments pour pouvoir monter ces plans d'aide d'aménagement, des dossiers qui ne suivent pas, des équipes qui ne communiquent pas entre elles, et malheureusement, nous sommes aussi obligés d'amener l'information la plupart du temps dans les écoles quand elle nous est demandée. Voilà, je voulais apporter ce témoignage.
Merci de l'avoir fait, Sylvie. Je ne sais pas si ça appelle un commentaire, oui, la part du docteur Catherine Billard.
Juste un commentaire pour essayer de tirer vers le positif, parce que ce que vous dites est parfaitement vrai. Je crois qu'il est vraiment très important qu'aujourd'hui, on fasse ce qu'il faut faire, ce que d'autres pays font, c'est-à-dire dans un premier temps, la réponse à l'école, je me répète, mais ça fait rien, c'est trop important, la réponse à l'école adaptée, non pas aux idéologies, mais aux connaissances. Dans un deuxième temps, si cette réponse à l'école ne suffit pas au bout de 6-7 mois, ou s'il y a d'emblée des facteurs de gravité qui ont été reconnus par les médecins scolaires ou par les enseignants, la réponse orthophonique, qui là encore doit être une réponse orthophonique adaptée, ciblée, intensive, et si cette réponse ne suffit pas, si au bout d'un an de cette prise en charge, ça ne suffit pas, le recours au centre référent, avec tout ce que ça comporte comme parcours du combattant aussi.
Monique Touzin.
On n'a pas bien répondu, je pense, à l'auditrice précédente sur que font les parents. Je crois que ce qui est important, on a vu, c'est vraiment l'enfer pour les parents de trouver ce qu'il faut faire. L'enfant est découragé. Il ne faut pas que les parents se découragent. Et souvent, ils ont du mal, justement, à surmonter toutes les difficultés.
L'anxiété rejaillit sur l'enfant,
bien sûr. Et je crois que c'est important de dire que l'enfant, il a besoin que ses parents croient en lui. Qu'il y ait des choses que l'enfant réussisse, c'est-à-dire de trouver des activités aussi en dehors de l'école où l'enfant ne soit pas en difficulté. L'inscrire, les parents parlent beaucoup des activités sportives où ils réussissent, artistiques où ils réussissent, qu'il ait un domaine de sa vie quand même où il n'est pas en difficulté parce qu'il passe toute la journée à l'école et c'est difficile. Il faut qu'il y ait quand même un domaine de compétences qui soit vraiment valorisé.
C'est une approche que vous partagez, voilà, Madame Ogier-Gollier.
C'est tout à fait ce que je souligne dans mon livre. Mon petit garçon s'est tourné vers l'équitation et j'aimerais
D'ailleurs, en couverture, on voit en dessous de 10 sur 10,
c'est lui qui le dessinait. Il a commencé à dessiner quand il a commencé à faire du cheval.
Au-dessus d'un château.
Il a commencé à s'exprimer quand il a fait du cheval. Et finalement, la première communication qu'il a eue, c'est avec son cheval. Et ce que je remarque, et j'aimerais bien connaître les statistiques, combien parmi les enfants dyslexiques font de l'équitation ? Car autour de moi, il y en a énormément.
Il y a peut-être un facteur social là.
Il
faut dire que les milieux défavorisés ne vaccinent pas du tout contre la dyslexie. Bien au contraire, elle est terriblement aggravée dans les milieux précaires.
Elle est
beaucoup plus sévère. Ouais. Je voulais juste reprendre en disant qu'on pourrait reprendre ce que vous venez de dire en tant que parent. Au niveau des enseignants, c'est-à-dire une chose qui est très importante pour un enfant dyslexique, c'est de souligner ses talents. D'aider à ses talents.
S'épanouir. C'est...
Une question qui revient souvent, on parlait des milieux, là c'est plutôt les pays, les langues, les méthodes. Une double question en fait. Christiane Aublanc-Ménil, a-t-on établi des liens de causalité entre les méthodes d'apprentissage de la lecture et l'apparition d'une dyslexie ? Et Bob à Vernon, quel est le pourcentage de dyslexiques dans les pays différents et selon les langues parlées ? Autrement dit, est-ce que c'est ce phénomène que vous avez tout à fait défini et décrit, docteur Biat, on le retrouve au fond sur tous les continents ou pas ?
Alors, oui, on le retrouve sur tous les continents. On le retrouve avec une fréquence ou une sévérité différente selon la transparence de la langue. C'est-à-dire qu'il y a des langues comme l'italien ou le finlandais qui sont transparentes. Un son correspond à une lettre ou un groupe de lettres et vice-versa. Il y a au contraire des langues très peu transparentes comme l'anglais. Vous parlez des difficultés d'anglais des enfants dyslexiques au long cours. Et puis il y a des langues comme le français qui sont intermédiaires. Donc on les retrouve sur tous les continents avec des sévérités différentes. La première question que vous aviez posée avant...
Les méthodes d'apprentissage, méthodes de lecture ou pas.
Ça revient en permanence.
Enfin, ils s'y attendent, mais
stop à la guerre. Stop à la guerre. On a complètement abandonné, ou on devrait avoir complètement abandonné, la méthode totalement globale. Car il y a absolument une phase incontournable pour l'apprentissage de la lecture, qui est le déchiffrement. Et c'est justement quand un enfant est en difficulté ou va être un enfant dyslexique que ce déchiffrement va être difficile et qu'il va falloir l'attaquer. Et ça, Monique pourra en parler peut-être mieux que moi.
Monique Touzin, orthophoniste.
Donc en fait, oui, il faut d'abord apprendre le mécanisme de la lecture qui fait que l'enfant, après, peut auto-apprendre à lire. C'est-à-dire, si on a les règles du jeu de la lecture, on peut apprendre à lire. Par une méthode globale, il ne peut pas apprendre si on ne lui a pas donné les clés. Et là, les clés, il ne les trouve pas tout seul. Alors, ce n'est pas la méthode qui le rend dyslexique, c'est qu'en fait, vu son trouble, il ne peut pas apprendre par une telle méthode. Et en plus, ça masque plus longtemps son trouble de la lecture. Parce que celui qui a vraiment les difficultés de déchiffrement, bah, on le voit très vite. Quoi. Il ne peut pas associer de lettres, de sons. Mm-hmm. Et si on lui apprend en global, il apprend son petit stock de mots. Hein. Les parents, ils décrivent très bien. Ils racontent mm-hmm. son livre. Et, d'ailleurs, voilà, il m'a dit, je te le donne, je n'ai même pas besoin de le regarder. Mm-hmm. Ben, oui. Donc, il ne sait pas lire.
Ce qui prouve aussi des dispositions, en même temps, intellectuelles,
absolument,
tout à fait.
Absolument.
Madame Augier-Gaulier, vous
la méthode globale, je ne sais pas si vraiment elle a été employée. Par contre, on parle surtout de la méthode semi-globale. Et je pense que les parents font peut-être une confusion entre la méthode globale et la semi-globale. Mais je pense quand même, enfin, par mon expérience personnelle, que même la méthode semi-globale est quand même responsable de l'aggravation des troubles si l'enseignant n'a pas d'autres supports d'entrée visuel, auditif ou kinesthésique.
Alors, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on revienne en arrière sur des... Bon, c'est toujours pareil. Il faut aussi pas caresser dans le sens inverse du poil. Il faut... Vous avez complètement raison. C'est-à-dire que peu importe semi-global ou complètement analytique, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant ordinaire apprendra à lire sans difficulté, quelle que soit sa méthode. Un enfant qui a des difficultés de lecture sur le déchiffrement, il va falloir reprendre toutes ces phases de déchiffrement pour donner les clés, comme disait Monique. Donc, c'est pas tellement le nom de la méthode, c'est comme l'étiquette, hein, c'est pas ça qui aide, que de comprendre qu'un enfant qui ne déchiffre pas, il faut absolument lui apprendre à déchiffrer.
Anne-Lise, bonsoir, vous êtes dans l'Aveyron, je ne sais pas quelle méthode vous aviez utilisée, mais enfin, vous avez appelé le standard pour témoigner. Je vous en prie, c'est très intéressant d'après ce que je lis. Faites-le nous partager.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, en fait, je suis moi-même dyslexique et dysorthographique. Et bien que chaque année depuis le CE1, je suis censée redoubler parce que à cause de mes difficultés, j'ai jamais redoublé jusqu'au bac. J'ai eu mon bac avec mention assez bien. Ça, c'est grâce à mes parents qui m'ont toujours encouragée à travailler.
Et la confiance dont on parlait, oui.
Oui, aujourd'hui, je suis en première année de pharmacie. Je la redouble, mais je suis pour l'instant 18e sur 250 personnes. Ça, c'est aussi grâce au tiers-temps qu'on nous propose à l'université. Et je voudrais dire aussi que c'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on peut pas prendre goût au français et aux lettres. J'ai moi-même eu la chance de recevoir un prix de poésie régional et qui m'a beaucoup encouragée. Et je voudrais dire aussi, pour les statistiques, j'ai moi aussi fait du cheval.
je pense que cette jeune fille a eu aussi une très belle prise en charge.
Ouais. Écoutez, merci sincèrement Anne-Lise. Hein. C'est pas du tout un témoignage qu'on a sollicité au standard. Vous avez appelé à 19h44, il est 19h54, le temps qu'on vous rappelle, etc. Mais enfin bon, ça fait du bien aussi à entendre par rapport à tout ce qu'on dit. Au standard toujours, Michel, vous êtes à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors, moi, je voulais simplement apporter mon témoignage, double témoignage, parce que je suis maman d'un enfant qui est dysphasique et dyslexique, et je suis en même temps professeure de français. Alors, en ce qui concerne mon garçon, il est actuellement scolarisé avec un an de retard au CP, dans une classe normale, mais le combat a été long. Il a fallu que je me tourne contre l'institution, parfois, parce qu'on a voulu me le mettre sur des voies de garage. Et s'il est actuellement dans une classe normale, c'est parce qu'il est bon en mathématiques et qu'effectivement, on a tout fait pour développer d'autres talents. Mais je voulais simplement dire qu'il ne faut absolument pas baisser les bras. Comme professeur, j'ai eu moi-même dans mes classes des enfants, des élèves dyslexiques en lycée. Et comme la jeune fille qui vient de témoigner, moi j'avais il y a 2 ans un élève très dyslexique, encore pire que mon garçon, et qui est actuellement en classe préparatoire. Donc je crois qu'il faut vraiment encourager ces enfants. C'est un peu long, c'est très long, mais je pense que les enfants finissent par arriver à apprendre. En ce qui concerne l'apprentissage de la lecture, mon fils, il a mis des années à apprendre à lire.
Merci infiniment à vous aussi pour ce témoignage, une réaction à Odile
Gaulier. C'est tout ce que je raconte dans mon livre, c'est mon combat et on y arrive, la preuve.
Le problème, c'est quand il y a des parents peu informés.
Oui, il y a des familles parfois défaillantes, tout à fait.
Qui malheureusement sont moins favorisées. D'où la nécessité quand même de former tous les professionnels de l'enfance, qu'ils soient de l'éducation ou qu'ils soient de la santé.
Camille, bonsoir, vous êtes à Paris. Je crois précisément que vous êtes professeur en lycée professionnel et comme vous...